Cours de théologie mystique sur le sacerdoce du Christ par le Père Philippe, le 26 février 1987 à Rimont.
Ça faisait pas partie de la liturgie du repas. Marie, prenant une livre de parfum de Vrena, d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya, et essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Oui, l'unité par le parfum symbolise, exprimée d'une façon symbolique. Cette unité existe entre les disciples et Jésus, entre Marthe, Marie, Lazare et Jésus et les disciples. Mais subitement, il y a des phénomènes qui arrivent, ça. Devant un fait particulièrement marquant, non prévu, l'unité est comme brisée. Il ne faut pas aller plus loin, il y a un seuil. Dans toute communauté, il y a un seuil. Il y a un seuil pour l'unité. Et il ne faut pas aller plus loin. Signal d'alarme autrement. Là, il y a ce qui est brisé. Intéressant même au point de vue purement philosophique de sentir ce climat d'unité, d'action de grâce. Dans l'action de grâce, on est tous d'accord. Et puis, subitement, un geste, ce geste de Marie, un geste d'amour qui dépasse les bornes par rapport à l'amour de Judas pour Jésus. Judas n'avait plus qu'un amour conventionnel pour Jésus. Et l'unité, au fond, n'était plus qu'une unité apparente, conventionnelle. C'était les disciples du Christ. Là, tout d'un coup, oui, c'est Rome de vérité. Hein. C'est très curieux parce que c'est analogue, vous voyez, au grand discours sur le pain de vie. Le discours sur le pain de vie a été aussi comme un sondage divin pour voir jusqu'où les disciples du Christ resteraient les disciples du Christ. Cette parole est trop dure et beaucoup s'en vont. Ils étaient des disciples au moment de la multiplication des pains. Ça ne posait pas de problème. Des disciples d'une économie de consommation donnée gratuitement. Alors quand c'est donné gratuitement et qu'on peut en consommer autant qu'on veut, tout le monde est unanime là-dessus. Mais c'est comme on disait au concile, hein, c'était au bar que l'œcuménisme était fait. Parce que quand on est en face de la tasse de café, qu'on soit protestant, catholique, orthodoxe, ça n'a aucune espèce d'importance. Le café est bon ou il est mauvais. Alors l'œcuménisme, mais c'est très curieux ces choses-là. Il y a une espèce d'unité qui s'est faite, une unité très factice. Et quand Jésus, alors, les enseigne, ouais, il y a deux choses qui vont briser l'unité. C'est la doctrine par rapport à l'Eucharistie. Parce que la doctrine par rapport à l'Eucharistie, c'est la doctrine dans son ultime pointe, dans l'ordre de la sagesse et de l'amour. Cette parole est trop dure. Mais comme aujourd'hui certains théologiens diraient à propos de la transsubstantiation, cette parole est trop dure. Disons pas ça. C'est périmé. C'est une manière élégante d'écarter. Et puis le geste liturgique, c'est très curieux. La liturgie fait l'unité. Ça fait l'unité d'une communauté, la liturgie. Et quand le geste liturgique exprime un amour excessif, comme un cri, c'est vrai, et elle a dû faire ça à la manière de Marie, la sœur de Lazare, on devine, ça devait être particulièrement éloquent. Alors, la maison est toute remplie du parfum. c'est quelque chose qui vient s'ajouter et qui fait l'unité encore plus grande. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas le supporter. Au milieu de vous, il y a un démon. Et alors le démon ici va se manifester. Il a fallu attendre ce moment-là pour que le démon se manifeste. Jusque-là, Judas était parfaitement conforme à l'attitude des autres. Du moins, il semble bien, selon l'Écriture. Judas l'Iscariote, un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit : pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné aux pauvres ? Qu'on aurait donné à des pauvres. L'exégèse est précise là-dessus, représente le prix d'une journée de travail. Alors transposez, hein. Vous voyez ce que ça fait, 300 deniers. Bon, ce qui montre ce qu'était Marie. Pour avoir ce parfum d'une si grande qualité. Dans tous les problèmes de savoir qui était Marie. Mais c'est quand même significatif. Elle l'avait gardée. Elle l'avait gardée. C'était sans doute la seule chose qu'elle avait gardée de sa vie antérieure. Et ici, cette espèce de sens, de flair, quand on aime quelqu'un, on sent les situations tragiques. Elle sentait que c'était le dernier repas. Ça, j'en suis sûr. C'est un geste ultime, ce geste. Hein. C'est un geste symbolique, donc c'est un geste liturgique qui a sa valeur liturgique pour exprimer sa très grande reconnaissance à Jésus. Le seul qui brise cette unité d'action de grâce, c'est Judas. D'argent. Mais plus profondément, je crois, il y a la question de relativiser cet argent par rapport à Jésus. Cet argent n'est rien face à l'amour que Marie, la sœur de Lazare, a pour Jésus. Elle utilise ce parfum en le perdant. Judas, c'est ce qu'il y a de terrible, c'est que le parfum, ça ne peut pas se rattraper. Une fois qu'il est versé sur les pieds de Jésus. Ça fait aussi partie de l'irritation. Parce que c'est purement gratuite. C'est purement gratuite. Si encore ça avait été pour une chose utile qui resterait, on pourrait le rattraper d'une manière ou d'une autre. Mais là, c'est purement gratuite. C'est donné en signe de gratuité par rapport à l'amour. Il n'y a rien de plus irritant pour un cœur qui n'aime plus de voir la gratuité de l'amour. Et là, ça met le comble à la colère de Judas. Il est devant une injustice pour lui, à sa manière. Et c'est très éclairant. Comme elle est au pied de Jésus. essuyant les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle est dans une situation où elle ne peut rien dire. Elle est entièrement relative à Jésus. Elle est toute relative à Jésus. Et le parfum versé sur les pieds de Jésus exprime symboliquement l'attitude de son âme. Elle est toute relative à Jésus. Elle est comme perdue en Jésus. Donc, elle ne peut pas répondre. Et c'est Jésus qui répond pour elle. Ça aussi, c'est significatif. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Donc, Jésus montre que son geste l'agneau, feutre qui exprime symboliquement cette pauvreté, mais plus profondément, en raison même de ce qu'il est. Il est le beau. Et c'est parce qu'il est le pauvre qu'il peut recevoir dignement et avec justice ce geste de Marie. Il a droit à ce geste, si vous voulez, puisqu'on attaque son droit. Et Jésus se justifie. Parce qu'il est le pauvre par excellence. Ce qu'on donne aux plus pauvres, on le donne à Jésus. Ce qu'on le donne aux plus petits, on le donne à Jésus. Parce qu'il attaque le geste, Jésus le reçoit. Alors je crois que nous pouvons dire que cette parole que Jésus adresse à Judas pour justifier l'attitude de Marie nous aide à comprendre ce qu'est l'état victimal du Christ dans le sépulcre, ce que représente le mystère de l'agneau. Alors voyez, je crois que ça permet, si on prend ce qu'on avait dit précédemment, agneau, c'est toujours pour creuser davantage le mystère agneau et serviteur. C'est surtout agneau. Agneau. Se présente comme l'avocat des pauvres. comme celui qui a le sens du pauvre que Jésus n'a pas. Judas préfère les pauvres à Jésus. Il trouve qu'on exagère vis-à-vis de Jésus. On fait trop de frais vis-à-vis de lui. On le fait passer devant. Non, il faut que les pauvres passent devant. Ça va très loin. C'est sans doute un mystère d'espérance complètement perverti, ça. Parce que la pauvreté est toujours liée à l'espérance. Et alors, on s'appuie sur les pauvres pour rejeter Jésus.
Je quitte l'église comme un geste prophétique. Ce besoin
droit de faire des gestes prophétiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le seul geste prophétique vrai, c'était ce geste de Marie. Elle, c'est vraiment un geste prophétique. Mais quand on dit qu'on fait un geste prophétique, on dit non, moi, c'est pas un geste prophétique. Ça, c'est le critère. Parce que quand on est poussé par le Saint-Esprit, on fait ce qu'on doit faire. Lazare, parce que beaucoup de juifs s'en allaient à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers et sortit au-devant de lui. Il poussait des cris. Alors vous avez l'initiative en cette dernière semaine. Vous avez l'initiative de Marie. Vous avez l'initiative de la foule. De cette foule, de ce peuple d'Israël, mais lié avec des quantités d'autres personnes. Pour la fête de Pâques, il n'y avait pas que des Juifs à Jérusalem. On le verra ensuite. Il y avait des Grecs. Et on voit tout de suite le contraste entre les deux. Mais évidemment, ici, on peut dire que c'est le peuple d'Israël qui, dans un dernier geste, un dernier sursaut de vérité, va vers Jésus et pousse des cris. C'est une autre liturgie, hein. Liturgie silencieuse Marie, liturgie sur les places publiques. Ça devait être dit avec une force étonnante, on voit très bien. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. C'est encore un geste prophétique du peuple d'Israël. Et un geste liturgique, vous voyez, cette liturgie qui apparaît avec une belle force dans la dernière semaine. Et vous regardez toutes ces zones concentriques liturgiques. La zone très intime à Béthanie, la zone plus vaste, le peuple d'Israël, et puis la troisième zone, les Grecs. C'est curieux. Alors les Grecs, pas liturgique. C'est la curiosité. On veut voir Jésus. C'est le désir. Alors ici, c'est très net. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et trouvant un petit âne, Jésus s'assit dessus, selon qu'il est écrit, « Sois sans crainte, fille de Sion. » Voici que ton roi vient, assis sur le petit ânesse. Jésus répond par un geste d'humilité. Je crois qu'on peut dire que c'est le geste d'humilité de Jésus, pauvreté, humilité. Par un geste d'humilité, il va aller au-devant de cette foule, assis sur le petit d'une ânesse. Il va au-devant de la foule. Cela, ses disciples ne le comprirent pas d'abord. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela se trouvait écrit à son sujet. Et que cela, on l'avait fait pour lui. La foule donc rendait témoignage, celle qui était avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare lors du tombeau et l'avait relevé d'entre les morts. Voilà aussi pourquoi la foule était venue au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe. Les pharisiens se dirent donc entre eux, voyez que vous n'y gagnez rien. Voilà que tout le monde est parti à sa suite. Ça, c'est très mauvais. Ça, parce que ça suscite une jalousie extrême. Le résultat, l'efficacité. Alors, par rapport au sacerdoce du Christ, qu'est-ce que ça signifie? Je crois que c'est pour nous faire comprendre le sacerdoce royal. jamais. Mais il faut attendre ce dernier moment. Il faut attendre la dernière semaine pour que soit acclamé roi par la foule. Jusque-là, il n'était pas. Et nous savons très bien, là encore, le parallélisme avec le chapitre 6. Quand la foule veut acclamer Jésus roi, Jésus s'enfuit. Ici, au contraire, la foule le proclame roi et Jésus va au-devant. Mais il ne faut jamais imiter matériellement les gestes du Christ. Parce qu'à travers l'évangile, vous voyez que les gestes de Jésus sont tout à fait différents selon les circonstances particulières. Mettez en parallèle et réfléchissez sur ces deux aspects tout à fait différents. D'un côté, Jésus fuit cette foule qui veut le proclamer roi. Et de l'autre côté, Jésus va au-devant de cette foule qui le dit roi. Humainement parlant, Jésus se trompe. Il aurait dû faire l'inverse. Vous comprenez ? À la montagne, on aurait fait une espèce de fête royale extraordinaire. Jésus proclamé roi après la multiplication des pains. Dans une action politique numéro un. Et Jésus a refusé. Parce que justement, il ne fait pas d'action politique. Jésus est prêtre sans faire de politique. Ça, je crois qu'on peut le dire. Il est roi sans faire de politique. Mon royaume n'est pas de ce monde. Voyons qu'il va à contre-courant au moment où, dans la montagne, du moins après la multiplication des pains, on veut le proclamer roi. Jésus n'avait qu'à se laisser faire. Ici, on veut le proclamer roi. On crie qu'il est roi et Jésus va au-devant. Alors pourquoi c'est... Parce que ça doit nous aider à comprendre la conduite de l'Esprit Saint. Ça doit nous aider à entrer dans cette manière dont le Père conduit son Fils, la manière dont l'Esprit Saint conduit Jésus. Et comme toujours, pour nous, c'est un modèle, c'est très important. Je crois qu'on peut dire ceci. Après la multiplication des pains, j'allais presque dire c'était comme un engouement. Et puis on veut proclamer Jésus roi pour avoir auprès de soi quelqu'un qui a un grand pouvoir. Grâce à lui, on ne mourra jamais de faim. C'est merveilleux d'avoir un roi qui nous permet de ne pas travailler. Il y a toujours un peu cette nostalgie. C'est une nostalgie humaine depuis le paradis terrestre. Tu travailleras à la sueur de ton front. On n'a pas envie du tout de travailler sur son front. Donc si le pain était donné tous les jours, et si l'Église distribuait le pain gratuitement tous les jours, autant qu'on en veut, il y aurait beaucoup de clients. Ça, c'est sûr. Quelque chose d'étonnant. Mais Jésus ne veut pas cette confusion entre la miséricorde spirituelle et puis le succès. Il ne veut pas. Alors il brise. Il dit au contraire, il est en face de cette foule qui, malgré la menace, qui, malgré l'arrestation, exprime quelque chose qui est vrai dans cette foule. Dans cette foule religieuse. J'allais dire le dernier sentiment religieux de cette foule qui proclame Jésus. cause de cette foule qui vit une très grande détresse. Elle est sous la tutelle des grands prêtres. Et sous la tutelle des grands prêtres, elle criera « Crucifiez-le !» Et Jésus le sait. Alors Jésus devance pour être auprès d'elle. Pour pas en dire plus. Mais il devance, et c'est beau de la part de Jésus. Ça, c'est la grandeur d'âme du Christ. Vous voyez, c'est peut-être la grandeur d'âme du sacerdoce de Jésus. Jésus ne veut pas. Jésus ne veut pas rester en deçà d'un appel. Et Jésus répond avec amour à ce geste, à cette initiative de cette foule. Et Jésus fait ça pour l'aider, pour montrer son amour, pour la fortifier. Alors ça devient très beau. La toute-puissance et la grandeur d'âme du cœur de Jésus au service de sa miséricorde, malgré la lutte. Jésus. Il n'hésite pas malgré le danger. Troisième moment, donc les trois grandes initiatives, le point de vue des Grecs. Il y avait là quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc s'avancèrent vers en Galilée. Et le prier en disant « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Leur curiosité. Viens, Philippe. Et il le dit à André. Vint André ainsi que Philippe et le disent à Jésus. Ce qui est aussi intéressant, ce petit détail qui montre que même à la fin de sa vie, les apôtres ont un très grand respect vis-à-vis de Jésus. Ils n'osent pas dire spontanément, directement, ce qu'ils sont dans leur cœur. Alors ils vont à deux. Jésus leur répond en disant « Elle est venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si les graines de blé tombées en terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime son âme, qui aime la paix, qui est sa vie en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et où je suis moi, là sera aussi mon serviteur à moi. Si quelqu'un me sait, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est toute troublée. Et que dire, Père, sauve-moi à cette heure. Mais voilà pourquoi je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Vint donc une voix du ciel, et je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. Voyez, c'est curieux. Face aux Grecs, ce que dit Jésus, il répond donc à l'appel des Grecs, à la curiosité des Grecs, et il se dévoile. Il leur dit ouvertement, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt. Donc Jésus veut leur faire toucher une expérience. C'est la différence de langage de Jésus avec les Grecs. Il n'emploie pas l'écriture. Il fait appel à l'expérience. Une expérience bien classique, bien connue, pour faire comprendre que le mystère de la croix doit se comprendre dans cette lumière. Le grain de blé, c'est Jésus qui est le grain de blé. Le véritable grain de blé. Il espèce de... C'est peut-être ce qu'il y a de plus admirable du reste dans cet enseignement. C'est le caractère à la fois très immédiat, direct, et en même temps qui touche la vulnérabilité la plus grande du cœur ou de l'intelligence. Et je crois que c'est ça qui caractérise l'aspect apostolique de Jésus. Il y a une espèce de spontanéité dans l'ordre de l'amour, extraordinairement direct comme proximité. Jésus n'est pas loin de ceux qui y parlent, il est tout proche. Seulement celui